Radio Champeau.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Radio Champeau. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 octobre. Alors, il y a Levana, Solal et les trois personnes de la Fève qui sont...
Ellie,
Sophia,
Zoé.
Alors, merci à vous d'être venus. Vous allez répondre à des questions. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter la Fève et les différentes missions qu'elle comporte, s'il vous plaît?
Alors, en fait, la Fève, du coup, on est quatre bénévoles. Donc, on est nous trois, plus il y en a une autre fille qui est aussi étudiante à Champollion. Et donc, nous, on est chargés de faire des animations dans le foyer. On a aussi de l'accompagnement avec un enfant 2 heures par semaine. Et on accompagne aussi les autres associations pour les aider administrativement ou des idées pour faire des animations et tout ça aussi. Et globalement, voilà.
Est-ce que vous êtes toutes étudiantes à Albi, ou parce que j'ai entendu que certaines étaient en service civique, donc est-ce que vous faites les deux?
On est quatre, c'est la quatrième de l'équipe qui n'est pas là du coup aujourd'hui, qui est étudiante en même temps, sinon là toutes les trois on fait juste le service civique.
Vous avez commencé quand?
Le 7 septembre.
Ok, ça se passe bien?
Ouais, très bien.
Et donc qu'est-ce que vous avez fait depuis le 7 septembre?
On a eu les deux premières semaines, c'était un peu plus de la mise en place, de la découverte et un peu de formation sur les outils qu'on allait utiliser dans l'année. Et après, on a commencé justement à réfléchir aux animations qu'on allait proposer dans l'année. Donc là, c'est une année particulière avec le Covid. Du coup, c'est très différent de ce qui a pu se faire les années d'avant. Moi, j'ai connu les années d'avant et c'est vrai que tout ce qu'on propose, c'était pas du tout ce qui se proposait avant. Et du coup, on a commencé à préparer nos animations, à imaginer ce qui était possible de faire ou non. Et on a eu beaucoup de « Oh, on pense à des choses !» Et au final, on a l'information de si on peut le faire ou pas. « Ah, on peut pas, du coup, il faut penser à autre chose. » On a eu beaucoup de trucs comme ça. Et après, on a commencé à préparer...
On a fait un agenda avec toutes les animations.
Ouais.
On a pu commencer les animations avec certaines associations. On a fait, la pause culinaire, on a fait des quiz. Enfin, on a commencé un petit peu. Et là, on continue. La semaine prochaine, on va faire un juste prix avec les étudiants. Enfin, on a quand même prévu jusqu'à décembre des animations. Et après, on guide des autres associations comme l'association de théâtre, cirque, tout ça. Donc on fait des organisations.
Dans l'organisation, l'administration?
Oui, c'est ça. Oui. On les aide pour les changements de bureau. Parce que comme c'est tous des étudiants, généralement, ceux qui reprennent les bureaux des assos, soit ils n'ont jamais fait ça, donc ils ne savent pas. Et puis même, comme c'est des étudiants, des fois, ils n'ont pas le temps de tout faire. Du coup, non, on est là pour les accompagner pour tous ces papiers administratifs. Et puis, on les accompagne aussi au niveau des activités ou des choses qu'ils peuvent proposer, parce que du coup ils ont le même problème que nous par rapport au Covid, ils peuvent plus faire les soirées comme ils faisaient, pareil leurs animations régulières c'est compliqué, et du coup nous justement on les aide à proposer des choses en leur expliquant ce qui est possible de faire ou non, et voilà, nous les animations qu'on a mis en place au foyer justement c'est aussi en partenariat avec eux pour leur permettre de faire des choses malgré tout, parce qu'il y a beaucoup d'assos qui font plus ce qu'ils faisaient. Donc voilà, c'est trouver d'autres alternatives de ce qu'on a connu en permanence.
Et le retour du jeudi, les événements qui sont autour du retour du jeudi, c'est vous?
Non, pas du tout. C'est l'action culturelle de la fac qui le gère.
Ok.
Et ils occupent le foyer, donc c'est... Enfin après, c'est pas en lien avec nous, mais le foyer est quand même disponible pour, pas que pour nous, pour tout le monde.
Ok. Et on est obligé d'être une association, par exemple, si j'ai envie de proposer un projet personnel? Est-ce que je peux me tourner vers vous et on organise ça ensemble, ou
bien
je suis obligée
sûr
de passer par une association?
Non, bien sûr. Il y a déjà quelqu'un qui est venu nous voir, un monsieur qui nous a proposé de faire un jeu qui s'appelle la fresque du climat. Donc en fait, c'est un jeu participatif où ça aboutit à créer une fresque, où on apprend quels sont les enjeux climatiques, comment fonctionne le climat déjà, comment ça fonctionne, et puis qu'est-ce qui perturbe notre environnement, la pollution, on va dire. Et qu'est-ce qui est bien de faire aussi Et donc c'est un monsieur tout seul, indépendant, qui
nous, qui sort même pas de la fac en fait.
C'est ça, c'est
donc
ça.
Donc tout le monde peut venir et proposer, même les personnes qui ne sont pas étudiantes et qui ne font pas partie du campus peuvent venir vers vous, se tourner vers vous et proposer quelque chose pour les étudiants.
Tout après, si je peux ajouter aussi, on a du coup notre quatrième collègue qui s'appelle Joanna. Et elle propose aussi pour tout ce qui est, comment on appelle ça, biodiversité, tout ça, des petits paniers avec plusieurs, voilà, panier campus, je cherchais le nom, avec plusieurs trucs bio à manger, tout ça, à prix cassé pour les étudiants. Enfin, elle fait aussi, par exemple, de la lessive, enfin, concret, des... Elle avait fait un atelier tawashi, tout ça, enfin, elle est là aussi pour...
Elle s'occupe plutôt de tout ce qui est développement durable,
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, tawashi.
Du coup, c'est des petites éponges qu'on fabrique avec des vêtements, enfin des manches de pull ou des pantalons qu'on récupère, qu'on coupe. Et il y a une technique qui permet de les assembler pour faire des petites éponges. Et ça fait de la récup et de la réutilisation.
Et ça, c'est accessible pour tous, oui. Pour tout public.
Après, on privilégie forcément les étudiants. Mais après, voilà, on a aussi une limite de places disponibles. Et du coup, c'est les étudiants en priorité. Et dans la limite des places disponibles, s'il reste des places, on peut prendre des gens qui ne sont pas étudiants.
Bonjour, je m'appelle Eva. Je fais aussi partie de Radio Champollion. J'avais une question. Du coup, vous faites des lessives et du savon vous-même ?
En fait, on va proposer des ateliers DIY dans le semestre. Ça fait partie des animations du foyer. Où il y en a un, ça va être fabrication d'une lessive un peu saine, on va dire, avec,
ouais, avec minimum... du savon de Marseille, voilà, c'est ça. Des huiles essentielles et tout. Ça se fait vachement. C'est trop bien.
Et après aussi, on va être formé avec le family plan familial sur tout ce qui est les violences et tout ça, pour nous pouvoir guider aussi les étudiants. Enfin, ça ne sera pas de suite, ça sera à venir dans l'année, pour pouvoir guider les étudiants s'ils ont des soucis personnels et tout ça.
D'accord. Et il faut prendre rendez-vous pour pouvoir participer à ces différentes activités ?
Pour les animations au foyer, oui, il faut s'inscrire en fait via notre adresse mail. On a sorti l'agenda, donc on a mis l'adresse mail sur l'agenda. Et oui, il vaut mieux s'inscrire avant. Toujours pareil pour la question des places, de la limite des places. Après, voilà, si l'atelier n'est pas complet et qu'il y a des gens qui, bon, ben, sur le moment, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être disponibles, mais ils le sont et ils veulent venir, on ne va pas fermer la porte s'il reste des places.
Ce sont les bienvenus.
Et du coup, si la FEV, c'est... Il y a le bénévole dedans. En quoi ça consiste, son rôle ?
Alors, le bénévole à la FEV, il va surtout accompagner un jeune, parce qu'en fait, c'est ça, cette association. Je ne sais pas si c'est vraiment une association. Si ? Oui.
C'est bien une association.
Parce qu'elle est tellement grande que... Et du coup, quand on est bénévole à la FEV, c'est plus pour faire de l'accompagnement d'un jeune qui vient des quartiers un peu défavorisés dans les villes. Et du coup, 2 heures par semaine, là sur la fac, c'est souvent des étudiants qui sont bénévoles. 2 heures par semaine, ils ont un jeune qu'ils rencontrent en début d'année, qui vont accompagner tout au long de l'année pour leur faire découvrir des choses qu'ils ne peuvent pas voir dans leur cadre familial ou de vie. Donc, que ce soit une ouverture culturelle, une ouverture artistique. Bon, ça peut arriver qu'il y ait un peu d'aide aux devoirs aussi, mais c'est vraiment le but, c'est une ouverture sur le monde que le jeune n'a pas directement.
D'accord. Donc c'est la possibilité de lui faire découvrir de nouvelles choses, en fait.
C'est ça, de nouveaux horizons. Et puis même, des fois aussi, de permettre aux jeunes de se sociabiliser aussi, quoi. C'est vachement d'accompagnement personnel et sur le monde.
C'est des enfants de tout âge ?
Oui. Il peut y avoir des enfants... De 4
à 17 ans.
Oui, voilà.
Et en fait, on choisit la tranche d'âge qu'on préfère. Et après, ils nous correspondent avec des familles pour que ça passe bien et tout ça. Et si ça se passe bien, après, on peut s'occuper de l'enfant.
Et le contact avec les familles, vous l'avez par... vous avez des conventions avec des écoles ou des centres aérés ou ça se fait?
Alors
par...
ça, c'est pas nous qui s'en occupe. Ça, c'est vraiment l'association. Et en fait, nous, ils vont nous mettre en relation. Enfin, moi, j'ai commencé mercredi à rencontrer une famille. Ça s'est très, très bien passé. Et en fait, nous, on nous dit, par exemple, le nom de l'enfant, l'âge et les soucis, s'il y a des soucis. Par exemple, s'il a des soucis à l'école, s'il veut sortir, sa situation. Et si on est d'accord, enfin, après, on va voir la famille. On se donne un rendez-vous chez la famille pour qu'il soit plus à l'aise et tout ça. On voit comment ça se passe avec l'enfant, on voit la relation, s'il y en a des points communs et tout ça. Et voilà, qu'est-ce que l'enfant aimerait, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce que nous, on peut lui apporter aussi, on explique. Et après... Et toi, tu pourrais,
par exemple, nous enfin, je ne sais pas si tu as le droit, mais de nous expliquer comment ça s'est passé pour toi personnellement, avec la rencontre que tu as eue.
Oui. Ben, moi, ça s'est très bien passé. Après, ça a été, on a parlé pendant une demi-heure avec l'enfant, à peu près. Et bon, déjà, on a eu des points communs, parce que moi, j'ai commencé le théâtre cette année. Et là, moi, c'est une petite fille que j'ai, et elle fait du théâtre. Mais elle a du mal à tout ce qui est... parce qu'elle n'est pas française, elle est turque. Et elle a du mal un peu à se mettre dans l'association, enfin, dans la vie de tout le monde, quoi, je veux dire. Elle a un petit peu des difficultés à l'école et tout ça. Et moi, mon but, voilà, c'est de lui faire connaître plein de trucs qui se passent à Albi. Avec l'association, il y a aussi des sorties avec tous les bénévoles. Enfin, ils prévoient des petites animations. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et après, je vais aussi l'aider, du coup, pour les devoirs.
Et du coup, pour le moment, quelle activité as-tu fait avec elle ?
Ben, en fait, là, pour moi, je l'ai juste rencontrée. Donc, ça va commencer après les vacances. Parce que pendant les vacances, on n'a pas d'accompagnement. On peut envoyer des petits messages et tout ça, mais il n'y a pas d'accompagnement direct. Et voilà. Donc, je n'ai pas encore commencé.
D'accord. Et comment les parents connaissent l'association ? Comment ils connaissent la FEV ?
Alors là, par contre, comme tu disais, ça passe soit par des associations, soit par les écoles qui conseillent aux parents de passer par la FEV et tout ça. Ou après, je pense que c'est du bouche à oreille. Enfin, ça, je ne suis pas sûre. Mais...
C'est surtout les équipes pédagogiques des écoles, que ce soit les assistantes sociales, tout ça, qui des fois constatent qu'il y a peut-être un peu des soucis et qui mettent en relation les familles avec la FEV pour essayer justement de trouver un jeune pour accompagner.
Et... Donc, ils vont leur en parler pour les guider ensuite, pour qu'ils puissent bien s'insérer au niveau dans le collège et pour avoir une bonne sociabilité.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Et en tant qu'étudiant, si on veut rejoindre ce programme, est-ce qu'on peut le faire en cours d'année, maintenant que l'année a déjà commencé ?
Pour accompagner un enfant, c'est en début d'année, parce que c'est en début d'année qu'ils ont les listes d'enfants qui ont besoin de ça, et que ça, la mise en place avec les familles, tout ça se fait. Après, si c'est possible, moi j'ai jamais vu, ça fait 2 ans que je suis sur la fac, j'ai jamais vu d'étudiants commencer en cours d'année. Parce que souvent en plus c'est des UO, c'est une matière en option dans certaines filières qui propose, ça fait partie en fait de la licence d'accompagner un enfant. Donc il y en a beaucoup qui le font parce que c'est une UO, après il y en a qui le font juste bénévolement en dehors de l'option.
Après, je pense qu'il faut toujours aller poser la question à la FEV, parce que des fois, en fait, il n'y a pas assez de bénévoles. Mmh. Du coup, il reste des enfants qui n'ont pas d'accompagnateur.
Voilà.
Et là, je pense que c'est même vaut mieux que ça commence en milieu d'année et avoir quelqu'un plutôt qu'il n'y ait personne tout court, quoi.
En fait, il y a des services civiques exprès qui s'occupent de l'accompagnement. Nous, on est service civique juste pour l'animation du campus. Et il y a d'autres services civiques qui travaillent sur la fac aussi, dans nos locaux, mais qui gèrent justement le mentorat, c'est l'accompagnement d'un enfant.
On peut les retrouver où, si on veut les contacter ?
Au foyer.
Au foyer.
Ou sinon, sur le site de la fac, le site de l'université, il y a les contacts de la FEV.
On peut les contacter par mail, par téléphone.
Ouais. C'est ça. Okay. Il y a tous les contacts sur le site de la FAC et sur le site de la FEV Tarn, du coup, à Albi.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, de votre service civique, de comment ça se passe, quel a été votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire le service civique ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous le conseillez ?
Vas-y, je commence. Alors moi, avant le service civique, j'étais étudiante à l'université Champollion ici. J'étais en licence d'histoire. J'ai fait ma première et ma deuxième année que j'ai pas tout à fait finie l'année dernière. Et du coup, la FEV, je connaissais depuis que je suis arrivée à la fac, parce que dès que je suis arrivée, je suis allée au foyer. Et c'est là que je les ai tous rencontrés, les services civiques, que j'ai rencontré la FEV et que j'ai su ce qui se proposait. Et du coup, l'année dernière, voilà, quand j'ai compris que je voulais peut-être arrêter les études, j'ai pensé directement à faire un service civique ici. Parce que bon, déjà, je voyais comment ça se passait et l'ambiance, j'aimais beaucoup ça. Et en étant tout le temps au foyer, je connaissais presque tout le monde. Donc je voyais vraiment comment ça se passait. Enfin, je n'étais pas dans le cœur du sujet, mais j'avais un aperçu quand même assez précis de ce qui se passait. Et du coup, ça m'a donné envie de le faire. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour le faire. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très différent de ce que j'ai connu, du coup, et de ce que j'ai vu des années d'avant. C'est quand même très chouette. Enfin, je suis très contente. Et j'ai hâte de... Parce que c'est que le début, j'ai hâte que la suite se fasse. Et... Enfin, de vivre tout ça au fond, quoi.
Ben, moi, j'ai arrêté les études très tôt. J'ai arrêté quand j'étais en troisième. Donc, j'ai commencé directement dans la vie active. J'ai commencé à travailler en tant que vendeuse. Puis, je suis passée en conducteur routier. Après, je travaille à l'aéroport de Toulouse en tant que bagagiste. Oui, c'est assez étonnant. Mais... Et après, j'ai eu des soucis de santé. Donc après, je me suis retournée vers le service civique pour quand même garder un rythme. Et en fait, je suis plutôt très contente parce que l'univers, du coup, est totalement différent. Parce que moi, j'étais avec des personnes beaucoup plus grandes et que des hommes, du coup. Et là, du coup, je suis avec des petites filles.
Ça fait du bien, des fois, d'être entre femmes.
Non, c'est des gens de 40, 50 ans. Donc là, la vingtaine, ça change totalement. Je fais partie des plus âgées. Non, mais c'est pour rigoler, ne t'inquiète pas. Mais franchement, ça fait du bien parce que ça me repose. Puis en même temps, je trouve que c'est aussi un engagement. Et c'est très important, je trouve, finalement, parce que je vois un autre monde complètement. Et je trouve ça très intéressant.
On se sent utile, quoi.
Ouais, oui. Franchement, ouais.
Et ben moi, j'étais sur Toulouse. J'ai fait mes études sur Toulouse, en sciences de l'éducation. Après, je suis revenue sur Albi. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé en boulangerie, dans la vente. Et j'en avais un peu marre. C'est quand même des boulots assez speed. Et voilà. Puis j'étais quand même assez perdue au niveau de mon avenir. Je sais pas quoi faire. Donc je trouvais que le service civique, c'était une bonne alternative. Ça permet de continuer à rester actif. Mais voilà, sachant que c'est que 26 heures par semaine, t'as aussi l'occasion de faire autre chose à côté. Et de réfléchir aussi. Voilà. C'était surtout pour prendre une année pour réfléchir sur ce que je voulais, ce que j'avais envie. Et voilà. Et l'animation du campus, vu que ça m'intéressait, parce que c'est quelque chose d'assez dynamique. C'est complètement un autre milieu que je ne connaissais pas. Parce que même quand j'étais sur la fac à Toulouse, c'était inexistant. Enfin, il n'y avait pas de vie sur le campus. Donc voilà. Là, j'avais envie de passer un peu de l'autre côté. J'ai été étudiante, j'ai envie de voir ce que ça donne de l'autre sens, quoi. D'accord. Et voilà.
Okay. Et avec, on parlait en début d'interview, l'impact que le Covid peut avoir sur vos animations. Comment vous gérez ça? Quelles sont les réglementations que vous devez suivre pour organiser vos événements?
Déjà, on s'adapte et on respecte tout ce qu'on nous a imposé, enfin du moins tout ce qu'on nous demande de respecter. Donc pour nos animations, on a mis un maximum de 20 personnes. Après, tout dépend des animations parce que les ateliers DIY ou plus manuels, comme il y a besoin plus, enfin que les gens soient pas trop loin pour pouvoir voir ce qu'on fait, on a limité à 10 personnes. Et puis du coup les autres ateliers à 20 personnes, comme on est assis généralement, on a juste disposé les sièges avec des écarts et après masque obligatoire bien sûr, parce que de toute façon il est obligatoire sur toute la fac. Et pareil, le foyer, en fait, cette année, on n'a pas du tout le droit de manger dedans. On n'a pas le droit de boire et de manger, quoi. Comme on faisait les années d'avant, où on proposait des cafés, des petites choses à boire, des petites choses à grignoter. On avait les micro-ondes à disposition pour que les étudiants puissent réchauffer leur plat entre midi et deux. Là, c'est plus du tout possible. Donc, on ne fait plus la permanence. Et le foyer n'est plus ouvert, en fait, librement comme avant, où une heure de trou, matin, après-midi, ils venaient se poser... Là, c'est le foyer ouvre que pour les animations prévues par soit nous, soit les autres animations prévues par les autres associations ou autres.
Après, il n'y a plus non plus les soirées avec les petites fêtes et tout ça, sur des thèmes ni rien. Ça a été annulé parce qu'on en avait prévu, mais avec le Covid, c'était pas possible. Et aussi, il y a eu des réunions pour savoir, avec des idées d'emplacement, de comment mettre le foyer, tout ça. Où la chef a dû construire un dossier pour que le foyer soit accepté et ouvert avec des animations. Parce qu'au début, c'était très très mal parti. Et finalement, on a réussi à trouver. Mais il faut, voilà, quand les autres associations viennent d'un foyer, nous, on doit bien les briefer sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, pour qu'on puisse rester ouvert.
Comme nous.
Voilà.
On est en train d'enregistrer le foyer.
Et j'imagine que, du coup, vous avez des partenariats avec des événements qui doivent se faire de manière annuelle. Comment ça se passe ? Je ne sais pas. Est-ce que vous en avez d'abord ? Non, d'accord. Des soirées qui se font toutes les années.
Il y a un événement annuel qui se passe sur la fac. Le plus gros, on va dire, et le plus connu, c'est le complot sur campus. Mais ça, c'est l'association des complotaires festifs qui le gère. Après, nous, c'est vrai qu'on est beaucoup en lien avec eux. Et l'année dernière, du coup, il a été annulé. Cette année, on veut être optimiste. On veut croire qu'il pourra avoir lieu. Et après, on reste réaliste aussi, dans le sens que ça pourra sûrement pas avoir lieu comme les années d'avant, où on accueillait entre 1500 et 2000 personnes par soir. Là, on a quand même conscience que ce sera peut-être pas possible, mais rien n'empêche de faire quand même, de proposer quand même des choses qui puissent être Covid compatibles, comme on dit, avec des limites de personnes ou des ateliers plus des petits ateliers. En vrai, on ne sait pas trop encore, on n'y a pas beaucoup réfléchi. Là, c'est que le début, on est juste en train de changer le bureau de l'association, donc la réflexion n'est pas encore poussée, mais on a envie d'être optimiste et de penser qu'on pourra faire quelque chose, même si c'est pas comme avant, de pouvoir faire quelque chose quand même.
Et si jamais cette année le complot sur le campus a lieu, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner par ticket pour montrer que la personne participe et qu'après ça pourra fonctionner ? Enfin, c'est une idée comme...
Alors là, c'est un détail où
on peut pas savoir.
Déjà que on sait, enfin même si on veut que ça ait lieu, on sait pas comment va évoluer la situation. En fait, on est tellement dans la vie, maintenant, c'est tellement au jour le jour, de semaine après semaine. Là, nous, on a prévu nos animations pour le foyer, pour tout le semestre, mais à tout moment, ça pourra plus se faire, et on le saura au dernier moment. Donc là, par rapport à ce gros événement, là, pour le coup, c'est des détails qu'on ne peut pas savoir, on n'a pas réfléchi encore. Il faut le temps de relancer la machine, de passer la main au nouveau, déjà, et après, on verra ces détails après.
Donc justement, en parlant d'événements, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des événements qui vont arriver dans les prochaines semaines pour ce semestre ?
Du coup, on va proposer deux types d'ateliers, on va dire. On a les ateliers qui se font entre 12h30 et 14h30, donc vers la pause de midi et deux à peu près, qu'on a surnommé Alter Pause. Et on va proposer des petits ateliers aussi de 18h à 20h, donc plutôt le soir après les cours, qu'on a appelé Alter Hours. Et à partir de la rentrée de Toussaint, on attaque avec une semaine d'ateliers entre midi et deux. Donc le premier, ça va être une sieste électronique le lundi 2 avec un monsieur qui fait de la musique. C'est un ami, on va dire un ami. Avec un ami qui fait de la musique, c'est Thrill Dub Résonance. Il commence à être un petit peu connu sur Albi peut-être. Et du coup, qui vient nous faire écouter sa musique entre midi et deux. Les comploteurs festifs seront là aussi, parce que du coup, comme on a dit, on fait en partenariat avec des assos. Donc, on a ça pour le premier lundi 2. D'ailleurs, il reviendra aussi le 1er décembre, donc pour, pareil, nous refaire écouter sa musique. Ensuite, on a un atelier le lendemain avec TK, qui est l'asso de théâtre de l'université. Et le mercredi, on reçoit aussi l'association Ivre d'équilibre. Donc c'est l'asso de cirque qui a été créée l'année dernière par aussi une amie. Et après, c'est la semaine d'après, on a un atelier DIY de lessive, du coup, fabrication de lessive maison.
Ça, c'est le soir.
Voilà, ça, c'est le soir de 18h à 20h. Et ensuite, la semaine du 16 novembre, on reçoit l'association Fire le lundi. Donc l'association Fire, c'est l'association féministe qui s'est créée l'année dernière aussi.
C'est une association d'étudiantes ?
Oui, c'est ça. Elles sont toutes étudiantes à la fac et féministes.
Engagées. Vous savez comment on fait pour les rejoindre ?
Sur Instagram.
Sur Insta ?
Ouais, Fire Albi, je crois que ça s'appelle. Ensuite, le 17 novembre, on reçoit le groupe jeune LPO, donc Ligue de protection des oiseaux, pour des petits quiz et petits...
C'est amusant d'ailleurs, voilà, on a travaillé ça. Un peu aujourd'hui.
On l'a préparé tout à l'heure. Ouais. Et ensuite, le mercredi 18 novembre, on reçoit notre mythique pause culinaire. Donc c'est un principe d'animation qui a été mis en place déjà depuis l'année dernière. Il devait y avoir trois éditions, on n'a pu en faire qu'une, encore une fois, en cause du Covid. Et donc, en fait, la POSCU, chaque fois, il y a des thèmes différents. Et c'est en partenariat avec le planning familial. Donc, il y a la service civique du planning familial qui vient avec nous pendant la POSCU. Souvent, il y a l'association FIRE qui vient aussi. Et du coup, c'est un temps qui permet de parler librement. C'est un espace très safe où il n'y a pas de jugement. C'est vraiment pour parler librement et partager sur divers sujets par rapport à la sexualité, au genre, tout ce qui regroupe un peu tout ce dont on parle entre potes et qu'on ne parle pas forcément dans un milieu scolaire. Donc, après,
je tiens à dire, c'est vraiment pas pour se moquer. Enfin, c'est vraiment pour discuter entre nous et tout. On va pas dire elle aime ça ou elle. Enfin, voilà. Parce qu'on n'est pas du tout dans ce.
Alors moi, du coup, j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que du coup, il y a des professionnels qui se joignent à la pause culinaire ou c'est vraiment que des particuliers qui en parlent, genre des gens, des étudiants normaux ou...
Alors justement, il n'y a aucun professionnel. C'était aussi le but de ce moment, c'est de pouvoir parler entre, comme des potes en fait. Vraiment, le but, c'est de partager les expériences, de discuter et de juste, voilà, c'est pas de l'instruction qu'on veut amener. C'est pas, même s'il y a des professionnels qui peuvent être très compétents pour parler de ça, c'est pas du tout la question. C'est vraiment une ambiance vraiment très amicale, très, on est entre potes.
Familial, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est plus du partage que de la transmission d'informations à quelqu'un de plus ou moins... Je cherche mon mot.
Là, le but, c'est vraiment entre étudiants, sans rien d'extérieur.
Ouais, il n'y a pas de prévention, il n'y a rien.
Non.
Okay.
C'est vraiment pour discuter entre nous, voir les différentes façons de voir les choses, quoi.
Voilà. Mm.
Parce que, enfin, parfois, il y a des choses qu'on peut ne pas connaître et découvrir sur le moment, en fait, pendant la pause culinaire.
Ben, on en a eu une cette semaine post-culinaire, c'était sur les genres. Oui. Donc, c'est d'ailleurs l'association FIRE qui l'a animée cette fois-ci. Et c'était très chouette de pouvoir aborder tous les types de genres, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mots qu'on met aujourd'hui et qui existent pour définir tout ça. Et souvent, c'est vu qu'il y en a beaucoup et quand on n'est pas beaucoup informé, on peut se perdre ou on peut être maladroit des fois. Rien que par rapport au pronom, par rapport à la transsexualité ou le genre non-binaire ou tout ça. Et il y a les nouveaux pronoms YEL qui existent. Et rien que par rapport à ça, des fois, on peut se perdre ou pas toujours être au courant. Et en fait, ça peut permettre justement de partager ce qu'on connaît entre nous, d'informer. Comme elle disait, on a eu un témoignage d'une personne... Non binaire, et qui a pu nous parler de son expérience, et c'était très chouette parce que il y a des choses que quand on n'est pas concerné, on peut pas imaginer, et justement, c'est chouette d'avoir des témoignages, des avis et de.
Et puis en plus, elle pensait qu'elle était seule à l'université, et en fait, ça a perçu qu'en fait, dans le groupe, ils étaient deux. Donc en fait, on est là aussi pour faire. Voilà, les gens qui sont seuls peuvent venir pour rencontrer des amis, se faire des amis, tout ça.
Vous parlez de témoignages de.
C'est ça.
Ah, c'est bien ça.
C'est pas que des groupes de potes qui viennent parler, non, c'est vraiment de tout le monde, tous les étudiants.
Donc vraiment dans un safe space, dans
tout à fait.
La bienveillance.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Sur les animations, du coup.
Oui.
Mais du coup, le 19 novembre, le lendemain, du coup, c'est un jeudi, on propose un atelier le soir de 18h à 20h. Un atelier manuel où on va fabriquer des attrape-rêves. Ah, et ensuite, le 23 novembre, toujours de 18h à 20h, on propose un ciné-débat sur le film Solid Dream. J'en dirai pas plus pour
pas spoiler. Pas de spoil.
Voilà. Je dis même pas l'histoire. Il y a des vélos.
Fallait pas dire le
film. Vélos
des voyages à vélo, peut-être. Et ensuite, du coup, on arrive au mois de la première semaine de décembre. Donc, on repart sur les animations entre midi et demi, de midi et demi à 14h30. Donc, le lundi, on reçoit Psychose. Donc, c'est encore une association étudiante du campus. C'est les étudiants de Psycho. Le lendemain, du coup, 1er décembre, encore la sieste électronique avec Thrill Dab Résonance et les Compoteurs Festifs. Et le jeudi 3, on a organisé, toujours entre midi et 2, un open mic. Du coup, le principe de la scène ouverte, n'importe qui peut venir pour dire n'importe quoi. Donc, des textes qu'il a écrits, chantés, slammés. Et il peut ramener une chanson qu'il a écrite. Il peut lire des poèmes qui ont été écrits par d'autres gens qui les touchent. C'est vraiment le principe d'une scène ouverte. Voilà, il y a un micro, il y a des gens. Tu veux monter, tu montes sur scène, tu veux dire des trucs, tu dis des trucs. Même juste pour faire une annonce au final. Et voilà,
c'est... Une déclaration d'amour peut-être.
Voilà.
À son crush.
Très façon américaine.
N'hésitez pas surtout.
On vous attend.
Donc la semaine d'après, le lundi 7 décembre, on propose un autre atelier Tawashi. Donc c'est les petites éponges écologiques. Donc 18h à 20h. Et le 10 décembre, le jeudi soir, on a encore une projection de film. Alors là, l'idée, c'est pas vraiment ciné-débat, c'est juste, on est en décembre, un peu avant les vacances. Peut-être des fois, c'est les partiels. Donc c'est plus l'idée, là, détente. On projette un film, voilà. C'est l'esprit détente. Et la dernière semaine avant les vacances, du coup, le lundi, entre midi et deux, on reçoit Aléa. Donc c'est encore une association étudiante de la fac, c'est l'association de jeux. Donc ils font des jeux de plateau, des jeux de toutes sortes de jeux. Ensuite, le lendemain, on va faire un DIY de Noël, le 15 décembre. Donc fabrication de petits...
objets de Noël, voilà. Cadeaux de Noël.
C'est ça.
Des boules de Noël.
Oui, voilà, voilà, c'est ça.
Un peu de tout. Hein.
C'est l'idée. Et le mercredi 16, pour finir en beauté, on revient avec la post-Q. Ouais.
Voilà. Ça, c'est indispensable. Oui.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ?
Alors, sur Facebook, on a mis l'agenda en photo et on met les événements sur Facebook au fur et à mesure qui vont se passer. Voilà. Ouais. Et sur Instagram aussi. Oui, vous pouvez. Ouais, on peut nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram.
Et quels sont comment on peut vous retrouver sur Facebook et Instagram ? Quels sont vos prénoms et noms ?
Sur Instagram, c'est Foyer l'Alternatif, tout attaché, sans apostrophe, sans tirer. Et sur Facebook, c'est Foyer l'Alternatif, écrit Foyer l'Alternatif. Quoi.
D'accord. Et sinon, on peut vous retrouver au foyer.
Oui, oui, complètement.
Et après, il y a une porte où c'est marqué dessus comploteur et aussi...
Oui, c'est notre bureau. Ouais. Et sinon, il y a notre mail aussi.
C'est
pascal.e.ambic@gmail.com. Ah, on peut laisser un agenda si vous voulez.
Oui, pourquoi pas, ça serait pas de refus.
Oui, on le postera sur nos réseaux, sur notre Insta. Ouais, aussi. Alors, à défaut de nous suivre sur Google Drive, vous pouvez nous suivre sur Instagram, à l'arrobase Radio Champeau.
Radio Champeau, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur la page Facebook.
Ouais, vous pouvez nous follow en masse.
C'est pas sûr qu'on vous follow back, mais bon, vous pouvez commencer.
On ne follow back pas.
Voilà. On est assez restrictif au nombre de personnes. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions.
Élie, Zoé
et Sophia.
Sophia, pardon.
Et je crois que cette collègue qui est venue entre temps.
Oui, tout à fait.
C'était en cours, c'est ça ? C'est ça. En tout cas, merci d'avoir
merci beaucoup, les filles.
C'était très intéressant. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Avec merci à vous de nous avoir accueillis.
Avec plaisir, il n'y a pas de souci.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Alors, nous sommes sur le plateau de Radio Champeau et nous allons écouter Marie-Lou qui va témoigner de son rôle de bénévole dans la Fève.
Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Pawlowski, j'ai 20 ans. Je suis en deuxième année de licence d'histoire à Champollion. Effectivement, je suis bénévole à la Fève. J'ai déjà été bénévole en 2018. J'ai accompagné deux jeunes, une petite de 6 ans et un jeune qui était en 6e de 11 ans. Et cette année, j'ai décidé de réitérer l'expérience. J'accompagne un enfant de 6 ans, et voilà.
Et donc, est-ce que tu as un projet, un programme précis pour cette année à proposer à...
Alors, le programme que je prévois, c'est donc du coup l'accompagnement vers la lecture. Mais bien entendu, ça ne consiste pas, ce n'est pas de l'aide au devoir. C'est surtout aider l'enfant, accompagner l'enfant justement vers la lecture. Via diverses plateformes. Ce n'est pas forcément que le livre, ça peut être également l'accompagner au parc, l'accompagner au musée, tout simplement le familiariser avec la lecture.
Et du coup, quand si tu prévois par exemple d'aller au cinéma ou au musée, est-ce que les prix, les tarifs d'entrée sont pris en compte par l'asso ou c'est toi qui dois prendre en charge ça?
Alors, bonne question. quand on y va, effectivement, c'est à nous de payer, mais on peut prendre notre... Enfin, on peut... Si on a une facture, on peut aller voir la FEV qui nous rembourse. Sauf si, dans l'éventualité où on fait une sortie avec les parents, là, il n'y aura que ma place et la place de l'enfant qui sera...
Tu peux faire des sorties avec les parents, c'est pas forcément que toi et l'enfant.
Ouais, ça peut être... d'ailleurs, c'est conseillé à la FEV de faire des soirées. de faire des sorties avec les parents, voilà. Parce que, justement, comme dit précédemment, en général, le bénévolat, c'est accompagner du coup le jeune vers des activités culturelles, mais c'est également une aide parentale, dans le sens où ça va aussi inciter les parents à s'inscrire à la bibliothèque, à mener son enfant à des activités qui peuvent être gratuites, et développer ainsi... la curiosité de l'enfant.
Tu as dit que ton rôle à toi, c'était pas de faire de l'aide au devoir. Les parents, ils pensent que c'est aussi de l'aide au devoir, plutôt ?
C'est ça. Souvent, le souci, c'est que les parents pensent que c'est de l'aide à de l'aide au devoir. Ça n'en est pas du tout. Justement, c'est accompagner l'enfant, aider l'enfant. Si, par exemple, on a face à nous un enfant qui est plutôt timide, on va surtout l'aider à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres, ce qui peut prendre du temps. Hein. Parfois, ça peut prendre quelques semaines, parfois plusieurs mois. Et voilà, c'est pas... c'est pas facile.
Et la dernière fois que tu as accompagné des enfants, donc pas cette année, les années précédentes, ta mission, c'était aussi l'aide à la lecture ou t'avais d'autres missions qui étaient proposées?
Alors, c'était d'autres missions qui m'étaient proposées parce que du coup, c'était des tranches d'âge différentes. Du coup, oui, la petite fille de 6 ans, il y avait aussi cet accompagnement vers la lecture, mais pas que. Il y avait aussi forcément les sorties culturelles et tout ça. Mais avec le petit de 6e que j'accompagnais, c'était surtout axé sur la découverte culturelle. Voilà. Donc, je me rappelle notamment, on était allé voir une exposition qui l'avait passionnée, une exposition sur les cartes postales. Je pensais au départ, ok, cartes postales, pourquoi pas. Mais franchement, c'était super intéressant et il m'a avoué juste après, franchement, j'aimerais beaucoup recommencer et ça m'a vraiment intéressée.
Oh, c'est trop bien.
Chose que je pensais pas forcément parce que, disons qu'on va pas, en sixième, on va pas instinctivement aller dans des musées et tout ça. Et c'est vrai que le savoir aussi, aussi intéressé, aussi impliqué, c'est vrai que c'était intéressant.
Donc parfois, ça te permet de découvrir des autres facettes que tu ne pensais pas pouvoir connaître.
C'est ça. Parce que souvent, un enfant va dire « Oui, je suis passionné par ci, par ça, par plein de choses. » Mais c'est vrai qu'on peut leur créer, enfin, on peut leur faire découvrir des choses, leur faire découvrir des passions aussi. Parce que finalement, il s'est avéré que ce garçon adorait aller au musée. Aller dans des expositions, dans des musées et tout ça. Et c'est vrai que, ouais.
Et il s'est découvert une passion pour la carte postale.
C'est ça.
Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir des bonnes ou comme des mauvaises expériences à peu près? Enfin, entre guillemets, bien sûr.
Effectivement. Il m'est arrivé d'avoir notamment une mauvaise expérience avec une petite de 6 ans que j'ai eue. Qui n'était pas forcément... Comment dire ? Qui n'était pas forcément en accord avec la FEV, qui ne voulait pas vraiment être accompagnée, qui me le faisait sentir. Mais par contre, le second enfant que j'ai accompagné en sixième, donc un mois après, ça s'est très très bien passé et on a même vu des améliorations dans ses résultats scolaires, dans sa façon d'être aussi, parce que c'était un petit garçon, c'était un jeune adolescent assez influençable. Et finalement, en discutant avec lui, il s'est rendu compte que ce qu'il pouvait faire avec ses copains, c'était pas forcément très intelligent. Voilà.
Mais est-ce que tu nous conseilles quand même d'intégrer la FEV et de faire cette expérience-là?
Si vous aimez l'humain et aider les jeunes, Et ben franchement, oui, je vous conseille.
Ça t'a apporté quoi, personnellement ?
Eh bien, de l'expérience par rapport aux enfants. Parce que forcément, je veux faire un métier en rapport avec les enfants. Et surtout, ouais, ça m'a développé une petite facette pédagogique.
Pédagogue. Qui se réveille.
Non, non, surtout pédagogue. Mais c'est vrai que le fait de se sentir utile finalement pour un enfant, c'est franchement, c'est gratifiant. Après, forcément, parfois, on ne voit pas les résultats de suite. Parfois, on se dit, ouais, mais ça m'a pas servi à grand-chose, finalement, d'accompagner ce jeune. Mais si, c'est pas parce que les résultats, ils apparaissent pas au bout de quelques semaines, quelques mois, qu'ils apparaîtront jamais. Parce que les discussions que vous aurez eues avec les enfants, parce que les activités que vous faites avec l'enfant, eh ben, ça va l'aider. Ça va l'aider pour plus tard. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup Marie-Lou pour ce témoignage, c'était très intéressant et merci beaucoup.
De rien.
Radio Champo, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champo.
Un grand merci du coup à la FEV d'être venue sur le plateau de Radio Champo. On est toujours sur le plateau avec Levana.
Toujours là.
Lucas.
Bonjour.
Et Solal.
On est là.
Et moi-même. Tout de suite, on enchaîne avec les chroniques. Solal, nous t'écoutons pour... Je te laisse prononcer le nom de ta chronique.
The Chronic, hein, bon, voilà, c'est une référence à l'album de Dr. Dre, hein, The Chronic. Bon, ben voilà, alors aujourd'hui... alors, bah, du coup, je vais parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc notamment la sortie de Très Organisé. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Alors, Très Organisé, le projet de Jul, sorti le 9 octobre, hein, donc c'est une tracklist qui est, enfin, c'est que des morceaux faits par des rappeurs uniquement marseillais, de toute génération, hein. Y a aussi bien Shuriken, hein, de IAM, comme SCH, ou bien des gens qui débutent, hein, qui sont pas ultra connus, comme Samblaz. Les streams sont assez étonnants parce qu'on est à 4,2 millions de streams sur Spotify en 24 heures, ce qui est, on atteint pratiquement un record. Hein. Et ça en fait jalouser certains parce que Aketo, un rappeur, cherche aussi à faire pareil pour Paris. Voilà, le All-Star Paris, voilà. Autre sujet, le nouveau record atteint par Nekfeu, son dernier album Les Étoiles Vagabondes Expansion, avec 34 morceaux sur la tracklist, a atteint un record de 19 singles d'or, qui en fait l'album le plus certifié au single d'or du rap français. Pour citer d'autres choses, bah, par exemple Ninho, il a 94 singles d'or, qui fait le rappeur le plus certifié en single d'or du rap français, ou bien Ipséité, l'album le plus certifié du rap français par Damso, ce qui ramène du coup à Nekfeu, à la quatrième position de l'album le plus certifié du rap français avec Cyborg. Autre chose, l'ex-femme de Dr. Dre, Nicole Young, est actuellement suspectée d'avoir fait un détournement de plus de 400 000 $. voilà, hein, elle risque beaucoup d'années de prison ferme. Exactement.
Très simplement.
Très simplement.
À manière de Balkany. Non, il est sorti.
Absolument pas.
Il n'est pas en prison.
Quoi d'autre? Lil Uzi Vert, un rappeur américain assez connu, hein, pour ses derniers albums qui est sorti très récemment, s'est fait arrêter très récemment et a été sorti, il était en garde à vue pendant une soirée. Il s'est fait arrêter pour paintball dans la rue, à Philly, hein, en Philadelphie du Nord, hein, formidable. Il s'est fait arrêter avec ses amis et on a trouvé 17 armes différentes de paintball. La police l'a relâché avec avertissement et il n'est pourtant pas allé en prison du coup. Et dernière information, suite à la victoire des Lakers, hein, sur la coupe de la NBA 2020, Snoop Dogg, un grand fan des Lakers, s'est fait tatouer en gros sur l'avant-bras les Lakers pour les féliciter. Il a même insulté 2-3 joueurs parce qu'il a trouvé que leur performance était très minable.
Yes.
Même si bah, dans tous les cas, ils ont gagné. Et je trouve que c'est le plus important. Voilà, c'est tout pour moi.
Ouais. Bravo.
C'est tellement propre.
Ouais, ouais.
C'est très propre.
Je suis un peu jaloux.
Merci beaucoup.
C'est du ça. Level.
Chapeau pour cette chronique Solal sur beaucoup. Le rap. Du coup, on enchaîne avec Lucas. Nous t'écoutons sur tes petits coups de cœur.
Petits coups de cœur, oui. Et cette semaine, j'avais envie de parler d'un YouTuber qui est...
Squeezie
non. Tu connais? C'est fou.
C'est quoi YouTube?
Ah, c'est... Je vais pas me lancer dans l'histoire de YouTube. De YouTube.
Vas-y, vas-y.
C'est un gars qui s'appelle GusDX. Est-ce que vous connaissez?
Pas du tout.
À table. Ok, parce que c'est un gars qui a... Mais il est très connu, il a quand même 539K abonnés sur sa chaîne. Et il fait du... c'est un chasseur de fantômes. Ok.
D'accord.
Vous pouvez rigoler. Non, mais en vrai, le gars est super sérieux dans ses enquêtes. En gros, c'est... chaque enquête dure environ 1h30, 2h. Et en gros, c'est super bien monté. Genre, en gros, ses enquêtes, ça dure une nuit dans un endroit qui est potentiellement hanté. Et il essaie à sa manière de récupérer des traces de potentiellement... fantômes, d'entités, comme il appelle, et c'est super intéressant, il y a un énorme taf en gros de montage, en gros, c'est toute une nuit, donc c'est environ genre 4-5 heures d'enquête, pour environ 2-3 caméras, donc c'est colossal en fait, et je trouve que le résultat est charmé, même si bah, il capte pas grand chose en soi, dans chacune des émissions, mais je trouve ça trop bien, c'est un super divertissement en fait, c'est trop cool, et puis le gars à côté en plus il joue, il a une chaîne Twitch et tout, GusDX Gaming, et il fait de la musique, j'ai appris récemment, et c'est charmé en fait, c'est trop bien, et je trouve que même si c'est un gros mastodonte, c'est le gars le plus connu quand on parle de chasseur de fantômes, c'est un gars que dont j'entends énormément parler, dans le milieu du YouTube, mais j'ai vu qu'il avait que 539K d'abonnés, j'ai trouvé ça très triste. Donc, ouais, GusDX sur YouTube, allez voir, c'est génial. C'est génial.
Comment on appelle GusDX?
GusDX, j'ai eu deux S, DX, les deux lettres de l'alphabet.
Ok, est-ce que c'est de façon professionnelle?
C'est super pro. C'est le très, gars très est pro. Très pro et c'est fou parce que quand il entend un bruit qui peut potentiellement te faire flipper dans le noir en pleine nuit, quand tu es seul dans un endroit potentiellement hanté, le gars, dès qu'il entend un bruit, il fait « Oh, c'est sûrement un chat. » C'est sûrement. Et t'es en mode, ou alors un fantôme, ouais. Peut-être. T'es là pour ça quand même.
Une entité,
ta grand-mère qui vient te chercher. Enfin, je sais pas... Non, mais genre, le gars est super pro, c'est grave quali, et il arrive quand même à choper des trucs, et je trouve ça trop cool, en fait. Voilà, okay. C'est un super divertissement, j'adore trop.
Et j'irai regarder ça.
On ira follow en masse.
En masse, follow, putain, yes.
Du coup, GusDX, tu peux GusDX, répéter encore une fois...
L'épeler ?
Ouais.
Oui.
G-U-S, G-U-2-S, D-X.
Voilà.
Okay. Sur YouTube.
Bon, ben on a du rap et un nouveau YouTuber. Et un chasseur de fantômes, voilà. Et maintenant, du coup, on va passer avec la chronique de Levana sur le féminisme qui n'est pas un gros mot.
Exactement. Donc, le féminisme n'est pas un gros mot. On a le droit de se considérer comme être féministe. Et aujourd'hui, pour cette émission de rentrée, je voulais rendre un grand hommage aux étudiantes dans les collèges et lycées qui ont manifesté contre les règlements vestimentaires jugés et qu'on le considère tous comme oppressifs et sexistes auxquelles elles ont fait face. Donc tout a commencé le mois dernier, à la rentrée des classes, où plusieurs filles se sont vues notamment refuser l'entrée dans les écoles car leur tenue était jugée comme, c'est pas du tout radiophonique, mais je fais des guillemets, non correcte et provocante. De nombreux témoignages sont apparus sur les réseaux sociaux. On a pu notamment voir apparaître sur Twitter et TikTok le hashtag « balance ton haut », où les filles postaient des vêtements qui leur ont valu des avertissements et des refus d'assister en cours. Donc grâce à cet afflux de témoignages et la magie des réseaux sociaux, cela a permis aux filles de se rassembler numériquement autour du hashtag balance ton haut, mais aussi du hashtag lundi 14 septembre, qui a eu pour but d'inciter les filles à se vestir de manière considérée comme provocante, en signe de contestation à ces règles complètement oppressives. Ce mouvement a été viralement partagé et soutenu par des associations féministes, comme l'association Nous Toutes, mais aussi par des personnalités telles que la chanteuse Adèle, connue aussi pour son engagement féministe. Ce mouvement a aussi fait l'office de nombreux débats à propos des tenues vestimentaires portées à l'école, en réintroduisant la question de l'uniforme. La sphère politique a également réagi, le président de la République appelant à faire au bon sens, et le ministre de l'Éducation sollicitant les étudiants à s'habiller normalement, de façon républicaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, s'habiller normalement et de façon républicaine? Donc, c'est en fait une question qui aurait autant de réponses différentes que de personnes interrogées. Parce que, en fait, on a tous un référentiel différent qui ne peut donner une réponse unique. Et l'un des enjeux pour moi dans les débats que l'on a pu entendre, c'est l'interprétation qui est portée sur la simple tenue d'une femme. Il est toujours question de politiser, de questionner, de donner son avis et d'apporter un sens à des vêtements quand ce sont principalement des femmes qui les portent. Donc, en France, en plus de ça, il est coutume de voir apparaître dans les débats publics des personnes non concernées par ces questions. Ici, ça n'a évidemment pas manqué. On a assisté à des plateaux de télévision composés d'hommes âgés, les fameux mâles blancs discutant sur la manière dont les adolescentes doivent s'habiller, ce qui est en soi un peu creepy.
C'est vrai.
On a aussi eu le journal Marianne qui a mené un sondage réalisé par l'IFOP, magnifique sondage, demandant à 2000 Français la question suivante. Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivant dans l'enceinte de l'établissement? Donc, comme type de vêtements, on avait un haut sans soutien-gorge où on verrait apparaître des tétons. Mon Dieu, wow. Quel enfer. Un décolleté plongeant, un crop top et un débardeur où on verrait apparaître les bretelles du soutien-gorge. Donc, bien évidemment, je n'irai pas plus loin dans la description de ce sondage qui est complètement inapproprié, étant donné que l'on demande à des personnes de donner leur avis sur des corps qui ne leur appartiennent pas et dans des vêtements où on sexualise la poitrine de jeunes lycéennes. Ce qui est symptomatique avec cette médiacitation, c'est encore une fois, on ne donne pas la parole aux principales intéressées. Et si je peux parler pour les lycéennes, je pense qu'elles souhaiteraient qu'on leur foute tout simplement la paix. Donc aujourd'hui, ma question c'est, au lieu de s'engouffrer dans un débat sans fin et complètement liberticide, est-ce qu'on n'apporterait peut-être pas un regard neutre sur des bouts de tissu? Parce que, évidemment, je tiens à le rappeler à tout le monde qui écoute cette radio, que ma valeur ne change pas si je porte un jean ou un short. Si une personne est déstabilisée par mon short, ce n'est pas moi le problème, mais l'interprétation qu'on a décidé de donner à mes vêtements. Donc il est nécessaire, de la part de la gente masculine, de désexualiser le corps des femmes. Petit rappel, encore une fois, nous ne sommes pas des objets sexuels dont la seule fonction est de plaire aux hommes. Et c'est cette interprétation-là qui nécessite d'être déconstruite et d'être mise en question. Donc, pourquoi devrons-nous priver les personnes de liberté alors que cette liberté déstabilise les autres? Les mœurs, les valeurs et les normes sont si personnelles et propres à chacun qu'elles ne peuvent pas constituer une loi unique, tout simplement. Donc comme je ne vais pas empêcher les autres de porter des vêtements à carreaux parce que ça me donne mal aux yeux, je ne vais pas non plus empêcher les femmes de s'habiller comme elles le souhaitent parce que je les considère comme provocantes. Encore une fois, il n'y a pas de tenue indécente, il n'y a que des regards déplacés. Donc au lieu de s'insurger sur une longueur de jupe, je vais plutôt porter de l'admiration envers ces jeunes femmes libres et sûres d'elles-mêmes. On va être plus fiers d'elles et elles me donnent l'espoir d'une révolution féministe faite de petits combats qui, tout accumulés, formeront une belle victoire.
Merci Levana pour cette chronique sur la tenue portée par les femmes.
Avec plaisir.
Et rappelons que nous sommes désormais depuis 2013 autorisés à porter des pantalons en tant que femmes.
Yes.
C'est une petite victoire. Ans.
Merci. Mais merci beaucoup.
21e siècle.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à Radio Albigès de nous accueillir. Et bonne soirée à toutes.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine pro.
Et faites attention sur la route, c'est important.